Gloire à Dieu. Tout à l'heure, nous aurons, par la grâce de Dieu, un baptême. Et il est important de rappeler c'est quoi le salut. Et notre thème de ce matin, c'est l'ABC du salut. L'ABC du salut. Nous lisons dans Romains 3, 23, 24 et puis dans Romains 6, 23, 24. Ensuite, nous lirons dans 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Ben, commençons par Romains 3, 23 à 24.
Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Voilà. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous lisons Romains 6, 23, 24 aussi.
Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Voilà. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Il est important, lorsque nous suivons un mouvement, nous suivons un courant, il est important de s'asseoir et de faire le résumé de notre propre logique. Parfois, nous nous laissons entraîner par le vent et nous n'avons pas pris position clairement. Et ça, c'est la voie de la majorité des humains. La majorité des humains suivent, sont entraînés, mais n'ont pas choisi vraiment. Et c'est grave, c'est irresponsable de ne pas choisir vraiment. C'est irresponsable de ne pas soi-même réfléchir aux choses. Comme c'est écrit dans Proverbes 16, 20, celui qui sait réfléchir, qui réfléchit aux choses, trouve le bonheur. Nous voulons donc résumer. C'est que le salut, c'est quoi? Nous croyons en quoi? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous parlons des choses de Dieu? Voilà, c'est ça l'ABC du salut, que chaque chrétien s'en souvienne, reste fixé dans ça, parce qu'il y a beaucoup de distractions dans la vie, dans le christianisme aujourd'hui, où les gens vont insister sur des choses qui n'ont rien à voir avec la venue de Jésus, avec le travail de Jésus. C'est pourquoi nous parlons de cet ABC du salut, que ce soit un résumé en toi. Lorsque tu t'assois chez toi, tu te dis, mais je suis chrétien pourquoi? Je suis chrétien pour telle raison. Voilà. Et lorsque tu dois aussi présenter le salut à quelqu'un d'autre, que tu aies les idées claires. C'est ça le but de cette prédication, que tu aies les idées claires. Qu'est-ce que tu présentes aux autres? Est-ce que tu vas leur dire, venez, vous allez gagner de l'argent en étant chrétien? Venez, vous allez être guéri, libéré, je ne sais quoi. Non, il faut présenter Jésus. Il faut présenter l'ABC du salut que nous sommes en train de dérouler aujourd'hui, afin que chacun ait une vision claire des choses. Et ça peut aider aussi, ça peut aider lorsqu'on est en difficulté. Lorsqu'on se souvient de ça, ça peut aider. Vous savez, quand Jésus a été crucifié, les disciples ont été paniqués, ils ont fui, même les apôtres. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés dans un endroit ensemble et deux d'entre eux ont quitté le groupe et ils allaient à Emmaüs. Et sur le chemin d'Emmaüs, Jésus ressuscité leur apparaît pour leur dire, mais pourquoi vous êtes tristes? Il dit, mais tu n'es pas au courant que des événements qui ont eu lieu dernièrement à Jérusalem. Mais Jésus leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, mais oui, mais Jésus qui était là, puissant en parole, puissant en miracle. Mais il a été arrêté, il a été crucifié, et cela fait 3 jours. Mais bon, il est vrai que les femmes qui nous accompagnaient sont parties au tombeau, ils ne l'ont pas trouvé. Il y a même un ange qui leur a dit qu'il est ressuscité. Et ces gens-là, quand ils racontent ça à Jésus, ils sont abattus. Avec tout ce que je viens de dire là, les anges ont vu les femmes pour dire Jésus est ressuscité, et ils étaient quand même abattus. Jésus leur dit, mais vous êtes compliqués, vous les hommes, vous êtes lents à croire ce que les Écritures ont prédit. Qu'est-ce que les Écritures ont prédit? Les Écritures ont prédit que Jésus devait venir pour souffrir à cause des péchés de l'humanité, être crucifié. C'est ce qui était prédit, et que le troisième jour, il ressuscitera. Maintenant, les femmes vous disent qu'ils l'ont trouvé ressuscité, l'ange leur a dit qu'il était ressuscité. Vous ne croyez pas toujours. Pourtant, tout s'est accompli selon les Écritures. Vous voyez, l'erreur de ces personnes-là, c'est qu'ils croyaient que Jésus, par sa venue, il allait établir son royaume en ce moment-là. Eux, ils allaient devenir des ministres des finances, ministres du budget, ministres de la santé. Et c'était ça leur vraie déception. Leur vraie déception, mais finalement, où est notre chef qui va établir, qui va être président, et nous allons être ministres? Donc, ils n'avaient pas bien compris le pourquoi, l'ABC du salut. C'est pourquoi nous devons rappeler ça, parce que si des gens qui étaient proches de Jésus n'avaient pas bien compris, ben il se peut qu'il y ait encore des chrétiens qui n'ont pas assimilé les choses. Il se peut qu'il y ait encore des humains qui ont entendu, mais qui n'ont pas bien assimilé les choses. Il faut qu'on présente les choses clairement. Nous commençons donc par ce Romains 3, 23 qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà. Car tous ont péché. Pourquoi nous parlons de ces choses? Parce que tous les humains ont péché. Le vrai problème de l'humanité, c'est le péché. Et il est écrit que tout le monde, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un point commun entre les riches et les pauvres, c'est deux jambes, deux bras. Mais le meilleur point commun, c'est le péché. Donc que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois savant, premier ministre, que tu sois prêtre, pasteur, point commun, c'est la nature de péché. Point commun de tous les humains, c'est le péché. Et maintenant, que nous dit Romains 3, 23? Romains 6, 23, nous allons lire Romains 6, 23.
Car le salaire du péché, c'est la mort.
Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit le point A, l'ABC du salut. A, c'est quoi? C'est tout le monde a le problème du péché, tous sans exception. D'ailleurs, le verset 10, Romains 3, 10 dit, il n'y a point de juste, même pas un seul, tout le monde. Ceux qui seraient tentés de se dire, mais les autres sont plus mauvais que moi, ils perdent leur temps, parce que Dieu les voit eux-mêmes aussi comme mauvais. Revenons sur Romains 6, 23, qui dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Parce qu'il y a toujours des gens pour penser qu'eux, ils sont bons. La réponse de Dieu, c'est quoi? Alors, pourquoi tu vieillis et tu meurs? La mort est là pour mettre tout le monde au même stade. Mohamed Ali est mort, Michael Jackson est mort, Edson Arantes Pelé est mort, les moustiques aussi meurent. Les lapins meurent aussi, comme tous ces gens-là sont morts. La mort est là pour dire à tout le monde, tais-toi, tu es pécheur. Voilà que tu vieillis, voilà que tu meurs. Parce que si tu étais correct, tu serais comme le diamant, il ne périt jamais. Tu serais comme de l'or, il ne s'altère jamais. C'est parce que tu es imparfait, que tu as le péché, que tu vieillis, que tu dépéris et que tu meurs. Voilà la réponse de Dieu. Parce qu'il y a des courageux qui osent vouloir se soustraire à ce verset-là. Tous ont péché. Et on dit, mais non, mais moi je fais de bons actes. Mais ce n'est pas parce que, ayant le sida, tu fais les bons actes, c'est comme ça que tu vas être guéri. Pas du tout. Tu as le sida, tu as la grippe. Même si tu fais les bons actes, c'est pas la grippe qui va, ces bons actes qui vont tuer les microbes que tu as en toi. Il faut prendre le médicament. C'est le médicament qui détruit les microbes. Et ce n'est pas parce que quelqu'un fait de bonnes œuvres. C'est pas parce que quelqu'un semble plus bon qu'un autre que lui-même est bon. Non, Dieu dit que tout le monde a péché. La preuve, c'est le dépérissement. Quand quelque chose dépérit, ça veut dire qu'il y a un principe mauvais qui le détruit. Soyons honnêtes. Si tu vieillis, ça veut dire qu'en toi, il y a un principe mauvais. Sur Internet, parfois, il y a des photos de quelqu'un depuis qu'il avait 20 ans. Par exemple, on prend Clint Eastwood, surtout les stars. On commence depuis qu'il avait 20 ans. Bien-aimé, ça fait mal de voir ces photos-là. Jusqu'à maintenant, je crois qu'il a 80 ans. Quand vous voyez le dépérissement, vous pouvez même fuir. C'est-à-dire quand tu vois l'enchaînement des photos, tu peux éteindre le téléphone et fuir. Parce que c'est comme un film d'horreur. Donc, on voit comment il était jeune, beau, comment ça monte jusqu'à maintenant où tu as l'impression que c'est un papier qui parle. Voilà. C'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. Donc si tu fais le têtu, le temps te prouvera que tu as le péché. Tu peux sauter, hein, faire des grands sauts, comme les Javier Sotomayor, 2,46 m. Tu fais un saut comme ça. Mais la vieillesse te rattrapera. Tu ne pourras même plus faire 50 cm. Vous voyez dans dans les toilettes, il y a des toilettes spéciales où parfois il y a, quand on voit dans les maisons de retraite, hein, il y a des toilettes qui sont dans les maisons de retraite, il y a un manche. Quand tu es jeune, tu as 20 ans, tu te dis, oh, mais ça sert à quoi ce machin-là? Rendez-vous dans 50 ans. Tu sauras à quoi ça sert. Tu dis, oh, pourquoi faire des instruments comme ça? Ah oui, pas de problème. Dans 50 ans, tu diras, ah, heureusement que je suis dans un bon pays, il y a ce genre de choses. Parce que pour te lever, il aurait fallu que quelqu'un te lève. Et ça serait la honte. Là, au moins, ce manche-là permet que tu te soutiennes. Ça, c'est le péché. Tu as beau parler, Yves Saint-Laurent, tout ce que tu veux, le péché va t'amener à la mort. Vieillissement, la mort, c'est ce que dit l'ABC du salut, le point A. Tout le monde a péché. Que tout le monde se taise. Vous savez, quand les sportifs marquent un but, ils font comme ça, ils disent aux autres, taisez-vous. Mais Dieu nous dit à nous tous, chut, regarde ce qui t'arrive. Tu dépéris et tu vas mourir. À la croix, quand Jésus a été crucifié, il y avait deux brigands, un à gauche, un à droite. On va lire le texte tout à l'heure. Il y a le premier qui parlait trop. Mais si Jésus, tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais quand il parle comme ça, mon vieux, mais toi-même, tu es à la croix. Tu parles comme si toi tu étais dans un palais royal. Tu es crucifié comme l'autre. Et c'est ce que le deuxième va faire comme réflexion. Il va dire, mais mon vieux, arrête de parler comme ça. Nous sommes crucifiés nous aussi. C'est fini pour nous. Et ce que nous subissons, c'est lié à nos péchés. Alors que lui, il n'a rien fait. Vous voyez, l'intelligence est venue quand il a reconnu son sort. Il a reconnu qu'il était fini. C'est ce que nous voulons nous partager à nous tous aujourd'hui. Ton intelligence rallume là en comprenant que tu es fini. Toi, tu te crois fort, tu te crois jeune. Mais moi, Dieu te dit que tu es vieux. Dans la Bible, dans un verset, c'est écrit, tu te crois vivant, mais tu es mort. Parce que celui qui parle t'a vu dans l'avenir. C'est ça le problème. Toi, Et les contemporains, les gens de ton époque, de ton jour, eux, ils te disent que tu es jeune. Mais celui qui a créé les cieux et la terre, qui connaît l'avenir, lui, il n'a pas de temps. Pendant qu'il te regarde, il voit, comme on a vu dit les photos de Clint Eastwood, il voit déjà le Clint Eastwood vieux là. Mais à l'époque, au moment où lui regarde, pour nous, tu as 20 ans. Mais lui, comme il n'a pas de temps, il voit l'enchaînement des photos. Vous avez les photos de Clint Eastwood, cet enchaînement-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Ben, lui, Dieu, quand il nous regarde chacun d'entre nous, il voit cet enchaînement de photos. Comment tu avais 3 ans, 4 ans. Lui, il voit tout ça et vieux. Maintenant, puisqu'il sait que toi, tu y es encore dans 30 ans, il t'avertit. Il dit, mon ami, ce que tu vois là n'est qu'une illusion. C'est une illusion. Il y a quelque chose qui t'attend de grave. Alors, prends conscience de cela. C'est le point B de l'ABC du salut. La prise de conscience. Prends conscience de ce que tu es en réalité. Prends conscience que tu es un malade mourant. Ah oui. Prends conscience de ça, que tu es fini. Parce que celui qui connaît l'avenir t'a déjà vu fini. Il t'a vu même enterré, les gens chantent. Lui, il a vu tout ça. Et donc, pendant que toi, tu t'agites, tu as marqué 8 buts, 8 buts pendant un match, lui, il voit comment les gens chantent. Ah, il nous a quittés, les gens pleurent. Lui, il voit tout ça. Il te dit, mon vieux, c'est bien les 8 buts, mais assure-toi de ton avenir. Après la mort, prends conscience que tout ça va passer. Prends conscience. Il te le dit par sa parole, mais il te le dit aussi par tous les gens qui t'ont précédé. Il te montre tous les gens qui t'ont précédé. Les gens qui te giflaient autrefois, mais aujourd'hui tu as pitié, tu peux même souffler, ils tombent. Mais il te montre tous ces gens-là qui t'ont précédé, qui étaient forts, qui était beau, qui n'a pas vu Jacques Chirac à la fin. Vous avez pitié. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a ordonné l'élimination de certaines personnes. C'est quelqu'un qui dirigeait tout un pays. Vous savez, pour comprendre la puissance du président de la France, il faut venir, par exemple, à Roissy, à l'aéroport de Roissy, voir comment cette machine-là, c'est comme une ville. Donc, juste être président, directeur de l'aéroport de Roissy, c'est un grade et immense. Maintenant, quand tu penses que ce genre de personne, le président, il suffit, il écrit seulement un nom et tu deviens président, directeur de Roissy, tu te dis, mais le président, ce n'est pas n'importe qui. Mais maintenant, voyez comment Chirac est devenu. Et Bernadette Chirac, dans une émission dernièrement, elle disait, c'est très dur d'avoir été président et de ne plus l'être. Je suis parti dans mon restaurant habituel avec mon chien. Le vigile m'a dit, madame, le chien n'entre pas ici. Mais je lui ai rappelé que ça faisait des années que j'entrais avec mon petit chien. Le vigile dit, mais le règlement dit que le chien n'entre pas dans ce restaurant. Il dit, mais oui, mais ça fait des années, moi j'entre avec mon chien. Le vigile, je dis bien vigile. Ce n'est même pas le directeur. C'est-à-dire, prenons un nom terre à terre, le domestique du restaurant, lui dit, mais madame, vous n'êtes plus madame la présidente. Voilà ce qui t'attend. Ce qui t'attend, c'est que les fourmis vont manger ton corps dans le sous-sol. Les vers. Vous savez, les asticots que tu rejettes comme ça, ils vont s'amuser sur toi quand tu seras enterré. C'est eux qui deviendront le chef. C'est le point B. Prends conscience de ça, mon ami. Les gens nous ont précédés. Fais un petit séjour à l'hôpital, tu vas voir. Fais un petit séjour dans les maisons de retraite. Nous faisons des concerts dans les maisons de retraite. On va te dire, ça c'est un ancien général. Ça c'est un ancien docteur. Ça c'est... Vous savez, celui qui était le président d'une association puissante contre le cancer de France, lui-même était hospitalisé pour le cancer. Voilà, lui-même est là. Et il est mort de ça. J'ai oublié son nom, mais il était célèbre. Mais lui-même, il a eu le cancer. On te montre, voilà, il est là. C'est cette prise de conscience qu'il faut. Prends conscience de ce que tu vas devenir. Et le pire, c'est que ça ne va pas forcément attendre la vieillesse. Ça peut venir avant. Je lisais le document d'un homme qui expliquait que le temps ne nous appartenait pas. Il dit, lorsqu'il avait 17 ans, il avait un ami, lui il avait 16 ans, cet ami il avait 17 ans, donc il venait d'avoir le permis. Il était très content. Il commençait déjà à conduire. Et un jour, il avait rempli sa voiture de grands pots de peinture et il s'en allait déposer ça quelque part. Il a fait un accident. Il a fait une erreur et il a frappé sur un grand poteau d'autoroute. Vous voyez, à cette vitesse-là, ce n'est pas l'accident, ce n'est pas la voiture qui l'a tué, mais ce sont les pots de peinture. En faisant l'accident, tous les gros pots de peinture sont venus l'asphyxier. Et la peinture s'est renversée. Il a dit, c'est resté des années cette peinture sur ce poteau-là d'autoroute. Il dit, il n'avait que 17 ans. Si on lui avait posé la question, il aurait dit qu'il lui restait encore 50 ans, 60 ans. Il dit, pourtant j'avais une grand-mère qui avait 60 ans, mais qui nous disait, bientôt je vais m'en aller, bientôt je vais m'en aller. Mais après 30 ans, elle était toujours là. Elle avait 90 ans, elle était toujours là. Alors que celui qui avait 17 ans, si on posait la question, tout le monde allait dire, il a la vie devant lui, il a encore 60 ans, mais il est mort. D'un accident et à cause des pots de peinture. C'est-à-dire que ce que tu vas être peut être une question de mois, ça peut être une question de jours. Prends conscience de ça. Dieu te parle aujourd'hui, prends conscience. Et nous ne parlons pas qu'aux gens qui ne sont pas chrétiens, nous parlons à tout le monde, même aux chrétiens. Prends conscience, pose les valeurs des choses. Ce n'est pas l'argent qui doit être la valeur. Ce n'est pas une maison qui doit être la valeur des choses. Ce n'est pas le succès. Pose la valeur des choses. Comprends que la valeur des choses, c'est l'éternité. C'est la vie éternelle. C'est la réconciliation avec Dieu. Parce que c'est ce que nous allons voir dans le point C. Le point B, c'est celui-là. La prise de conscience que tu es en déperdition, en dépérissement, en perdition. Prends conscience de cela maintenant. N'attends pas que les choses arrivent. Quand les choses arrivent, c'est trop tard. C'est ça le point B. Prise de conscience. Lorsque tu ne prends pas conscience de cela, tu es perdu. Et pour illustrer le point B, nous allons lire dans Luc 12, 13 à 21. Luc 12, 13 à 21. Pour illustrer le point B, Luc 12, 13 à 21.
Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disons, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte ?»« Voici, dit-il, ce que je veux faire. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi. » Mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu.
Voilà, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je pense que en enfer, Steve Jobs n'a pas amené les ordinateurs. Il est venu tout seul. Les démons ont dû lui dire, mais alors, où est l'iPhone? C'est ce que nous lisons là. C'est-à-dire qu'un jour, ton âme te sera redemandée. Mais cet homme pensait avoir la vie devant lui. Il pensait maîtriser les choses. Nous en avons connu des gens, à peine il a son doctorat, il meurt. Il pensait maîtriser, il est devenu chef de service, il meurt. C'est ce qui se passe là. Jésus dit, posez bien les valeurs de choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit à Jésus, partage-nous notre héritage familial. Je sais que tu es un homme juste. Donc ce sont tous ces chrétiens-là qui se trompent de valeurs, qui pensent que Jésus est là pour nous donner l'argent, Jésus est là pour nous donner raison dans les disputes. C'est toi qui as raison. Non, Jésus n'est pas là pour ça. Jésus est là pour nous brancher à l'éternité, pour nous faire ressembler à son Père. Il n'est pas là pour qu'on le félicite par des gens ou bien qu'on soit le premier. Non, il est là d'abord pour nous réconcilier avec le Dieu qui nous a créés, qui nous aime tant. C'est ça qu'il est venu faire. Il faut bien poser les valeurs. Il n'est pas là pour nous donner les plus belles maisons sur terre. Non, il n'est pas là pour ça. Il dit ce sont des choses simples, ça. Il dit ça, ce n'est pas important, puisque même des gens qui sont mauvais, ils ont ça. Vous reconnaissez la qualité des choses quand c'est Dieu seul qui peut donner la chose. Si les mauvais ont ces choses-là, c'est que ce n'est pas des choses de qualité. Les choses de qualité, ce sont des choses qui viennent du ciel. L'amour, la simplicité, la vérité, cette qualité-là, vous ne trouverez pas ça sur le marché. C'est dans un endroit spécial, la Bible, c'est tout. Tout ce que tout le monde possède là, les jets privés, tout ça, c'est rien. Parce que ce qui a de la valeur, c'est ce qui vient de Dieu lui-même directement. Et Jésus dit, posez les valeurs. Qu'est-ce qui a de la valeur ici sur terre? C'est de voir une prostituée se convertir, devenir un enfant de Dieu. C'est ça qui a de la valeur. C'est de voir quelqu'un qui était dans l'opium, esclave. Vous savez, quand ils ont un manque, ils font des crises. C'est horrible. Regardez la crise de quelqu'un qui lui manque la cocaïne ou bien l'opium. C'est horrible. Il a parfois l'impression de voir des éléphants. Il voit. Il y en a qui ont l'impression que le plafond est en train de diminuer en hauteur. Renseignez-vous sur tout ça. Maintenant, la valeur, c'est quoi? Les belles choses, c'est quoi? C'est de voir une telle personne libérée, pouvoir vivre sans cocaïne, pouvoir vivre sans opium. La valeur, c'est quoi? C'est de voir un assassin comme Sam. Vous savez le témoignage de cet assassin américain, Sam, qui s'est converti en prison et qui est devenu l'homme le plus heureux du monde. Il est devenu prédicateur en prison. C'est ça la valeur des choses. Jésus dit, mais ce n'est pas l'héritage qui a la valeur. Et on voit des chrétiens par-ci, par-là se disputer pour les héritages dans les familles. Non, nous avons un héritage extraordinaire au ciel. Tout l'univers va nous appartenir. Et ce ne sera pas cet univers qui est corrompu, ce sera un nouvel univers. Tout ça va nous appartenir. Nous n'avons pas besoin de lutter pour des maisons terrestres qui vont passer. Nous-mêmes, on va passer. Nous allons passer. Jésus dit, mais je ne suis pas venu pour des petits trucs comme ça. Moi, je suis venu vous brancher à l'éternité. Attendez, je vous raconte une histoire. Il raconte l'histoire de cet homme qui avait tellement fait de bonnes récoltes qu'il n'avait plus de place. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est dit, je vais détruire mes greniers et je vais en faire de plus gros. Et je vais mettre tout dedans. Tout dedans. Et je pourrais vivre sans travailler avec toute cette richesse-là. Mais il est écrit, le soir même, il est mort. Ça fait comme c'est douloureux d'être milliardaire alors qu'on a 90 ans. C'est douloureux. Tu n'es même pas capable de manger un poulet tout seul. Donc, deux pilons, ça te suffit. Comme me disait le petit déjeuner de la reine d'Angleterre à l'époque, c'était du thé et une biscotte. Je dis, ah, s'il faut être reine pour manger du thé et des biscottes, ça sert à quoi d'être reine dans ce cas-là? Thé et biscotte. Je dis, oh, mais ça sert à quoi? Si on met tu es roi, tu dois être capable de manger une bonne saucisse au barbecue. Mais toi, tu ne peux pas, puisque tu fais attention, tes biscottes, je veux dire, ça ne sert à rien dans ce cas-là d'être reine. Vous voyez, bien-aimé, c'est ce que Jésus nous dit, mais la valeur des choses, ça sert à quoi? Puisque tout ça va passer. Investissez pour le ciel. Prenez des décisions qui sont en lien avec votre avenir céleste, parce que tout ce qui est sur terre va passer. Est-ce que nous sommes en train de dire qu'il faut, s'aborder la terre? Non, on ne dit pas ça. On dit tout simplement que dans la vie d'une personne, il y a un ordre de priorité dans la prise des décisions. Et bien, la priorité doit être d'abord le ciel. Et le reste après, ça viendra tout seul. C'est normal qu'on veuille manger, c'est normal qu'on travaille. Mais la priorité doit être le ciel. C'est ce que Jésus a voulu dire dans cet exemple. Il a dit, cet homme n'avait pas pris conscience qu'il ne maîtrisait pas sa vie. Il n'avait pas pris conscience qu'il pouvait mourir du jour au lendemain. Il n'avait pas pris conscience que tout cela va passer. Et il s'est projeté dans l'avenir alors qu'il ne le maîtrisait pas. C'est ça la prise de conscience. Prenons conscience. Prenons conscience d'une chose. Il y aura un jugement dernier. Ça aussi, c'est important. Nous ne voulons pas le cacher aux uns aux autres. Nous ne voulons pas mentir aux gens. Juste parler de la mort, des conséquences néfastes du péché sur terre. Non, il y a une conséquence. La conséquence la plus grave du péché, c'est la perdition éternelle. C'est le jugement dernier qui va amener les mauvais en enfer, dans le feu éternel. C'est la conséquence la plus grave. Alors, quelqu'un dira, oh, mais qui a vu ça? Nous vous disons la même chose que nous avions dit au point A. Si la mort est déjà une première conséquence du péché, ben, il y aura une autre plus grande conséquence, ça sera le péché. Ça sera le feu éternel. Pourquoi nous le disons? Parce que la mort ne nous fait pas disparaître. Vous savez, c'est écrit, Romains 3, 23 dans le point A, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23, point A. Et le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Le problème, c'est que c'est une conséquence insuffisante. Parce que, oui, ton corps meurt, mais ton être continue à exister. Ton âme continue à exister. Mais il faut se dire que la punition, la sanction va continuer comment? Eh bien, c'est le feu éternel. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Il faut en prendre conscience. S'il y a eu une première mort, il y aura une seconde mort. L'apôtre Jean appelle ça la seconde mort, puisque la première mort ne finit pas ton cas. Ça ne finit que le problème de ton corps. Momentanément, ton corps meurt, mais viendra un jour, il faudra régler la question de ton être. Et étant un être qui a refusé la réconciliation avec Dieu, il faut être dans un endroit où on va cantonner le mal. Dieu a prévu un monde où il n'y aura plus de mal. Mais comme les créatures de Dieu sont éternelles, il fallait un endroit pour cantonner, emprisonner ces créatures éternelles. Pour ne pas qu'elles polluent le reste du monde de Dieu. Si c'était des créatures non éternelles, ben on en aurait fini une fois pour toutes. Elles sont éliminées, c'est fini. Le problème, c'est que l'homme n'est pas une créature finie, c'est une créature éternelle. Du coup, la mort ne fait que l'éteindre par rapport à la vie terrestre, mais il reste vivant. dans le monde de Dieu, dans le monde complet. Et donc, du coup, il faudrait une seconde mort qui est cet emprisonnement éternel. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit. Est-ce qu'on peut lire ça? C'était pas prévu. Apocalypse chapitre 20, c'est écrit. Parce que il faut qu'on comprenne ces points-là. Deuxième point, le point B. Apocalypse chapitre 20, verset 11, à partir du verset 11.
Apocalypse 20. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Excusez-moi. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu.
Voilà. C'est la seconde mort. Parce que la première mort n'en finit qu'avec ton physique. Et momentanément, puisque à la fin, tu seras ressuscité pour recevoir le vrai jugement définitif qu'on appelle la seconde mort, qui est une prison, puisque tu ne peux pas disparaître étant une créature éternelle. Dieu nous a créés éternels. Même quand nous ne mourons que physiquement, mais spirituellement, nous continuons à vivre. Et comme nous continuons à vivre, il faudra une véritable décision future d'exclusion du monde de Dieu qui n'est possible que sous forme d'une prison qu'on appelle les temps de feu, dans lequel les gens... Pourquoi le feu? Parce que c'est le feu qui annule l'action du mal. Vous savez, quand vous mettez tout dans le feu, vous détruisez tous les microbes. Donc, vous prenez même quelqu'un qui a le cancer, qui a le sida, qui a n'importe quel microbe. Prenez son corps, mettez dans le feu. Eh bien, ce microbe-là aussi meurt. Voilà. Donc, le feu, quand on bloque le mal, voilà, le feu bloque le mal. Donc, quand on veut tuer même les microbes du lait, les microbes nocifs, donc on appelle ça la pasteurisation, on met de la chaleur. La chaleur, c'est ça qui contient, qui cantonne le mal, qui bloque le mal. Et comme c'est des créatures éternelles, ben ce feu-là sera éternel et ils vivront dedans éternellement. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ce que je dis là, ce n'est pas une menace. C'est une explication d'une réalité. Ce n'est pas une menace dans l'air. Nous venons de lire. Celui qui connaît l'avenir, celui qui a fait les choses, il te prévient. Il dit qu'il a prévu un monde parfait. Et tous ceux qui refusent de venir à lui pour être purifiés devront être cantonnés dans ce monde-là, dans le feu, pour ne plus gêner le monde parfait de Dieu, qui a été gêné aujourd'hui par le péché d'Adam. Parce que dans le point A, ce que nous n'avons pas dit, c'est que notre péché vient de notre ancêtre Adam qui a le premier commis le péché. Et il nous a transmis par héritage. Ce n'est pas nous qui avons créé le péché, nous l'avons reçu par héritage. Mais Dieu ne tient pas compte du temps en ignorance. Il te dit, aujourd'hui, ça peut changer, mais prends conscience de toutes ces choses-là. Nous arrivons à la troisième étape, le point C, nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Le point C, 1 Corinthiens 15, 1 à 3. 1 Corinthiens 15, 1 à 3.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures.
Amen. Donc on peut lire encore un tout petit peu. 4.
Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts.
Amen. Voilà le troisième point, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Nous rappelons le premier point, c'était que nous avons tous le péché, tous les humains, sans exception. C'est le point commun principal des humains, c'est le péché. Et ce point commun-là nous amènera à la mort, puis à la seconde mort plus tard, au jugement dernier. Ce point commun-là, c'est ça qui nous détruit, c'est ça qui nous dépérit, c'est ça qui nous vieillit. Deuxième point, c'est la prise de conscience de tout cela, que nous avons un mal en nous, nous sommes mauvais. Voilà, c'est prendre conscience de cela, prendre conscience de nos péchés passés, prendre conscience du fait qu'il y a un jugement dernier qui va amener un groupe au cantonnement dans le feu éternel et un autre groupe au paradis. Prendre conscience de cela. Et nous avons pris l'exemple de ce monsieur qui était riche, qui n'avait pas pris conscience de cela et qui est mort comme ça, et son âme allait être redemandée plus tard, le jour du jugement dernier, et il allait connaître le feu éternel. Voilà. Le troisième point, c'est que Dieu est bon. Dieu nous a donné son Fils Jésus comme solution de cette affaire. Jésus est mort pour nos péchés, c'est ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, Jésus y est allé parce que c'est pas parce que lui il avait fait une faute quelconque. Son meilleur témoin, c'était le brigand qui était à côté de lui. Il a dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Son meilleur témoin, c'était son juge. Le monsieur qui jugeait Jésus a dit à ses accusateurs, ce qui n'a jamais été vu, le procureur qui est censé te condamner, c'est lui qui dit aux accusateurs, il dit, mais je ne vois aucun mal qu'il ait fait. Voilà, le juge lui-même a dit, mais ce monsieur n'a fait aucun mal. C'est ce que Pilate a dit ce jour-là. Il n'a fait aucun mal. Et lui-même, il le dit dans Jean 8, 46, je n'ai fait aucun mal. Personne ne peut me donner un exemple de mal que j'aurais fait. Donc Jésus a été à la croix innocent. Mais comment un innocent peut se retrouver à la croix? Mais parce qu'il a pris nos péchés. C'est ça la solution de Dieu. Il a pris les péchés de tous les humains, il l'a mis sur son Fils pour pouvoir pardonner aux humains. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le point C. Ah, comment tu peux résister à une si grande nouvelle? Comment tu peux continuer ta vie sans Dieu? Est-ce que toi-même tu prends conscience de ce que tu fais comme de grave? Ça veut dire que Dieu a donné son Fils pour toi. Et toi, tu dis, ben, j'attends encore. Tu attends encore quoi? Le Fils de Dieu a pris ta place. Il a pris tes péchés. Il a été sanctionné à ta place. Voilà la solution que Dieu t'apporte. Toi, tu dis, ben, on verra après. C'est pourquoi c'est écrit dans Hébreux 10, je crois au verset 29. Le jugement de Dieu sera terrible pour ceux qui méprisent sa grâce, un si beau cadeau. Il donne son propre Fils pour que toi, tu aies la vie éternelle, pour que tes péchés soient portés par lui. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16, c'est le verset qui résume toute la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu ne te demande pas de devenir parfait par toi-même. Il ne te demande pas d'être vainqueur du péché par toi-même. Il te demande juste de reconnaître les deux premiers points et de dire à Jésus, Jésus, sauve-moi, c'est tout. Est-ce si difficile? Tu te dis, mais oui, mais je sens la puissance du péché en moi, j'ai encore des envies. Mais c'est pourquoi Dieu ne t'a pas demandé de triompher de ça par toi-même. Il te demande de dire à Jésus, Jésus, sauve-moi. Et c'est lui qui te sauvera de tout ça. C'est lui qui a pris tes péchés à la croix. C'est ça le troisième point. Et il n'y a pas de distraction, parce que je vois des gens faire des débats gauche à droite sur Branham. Est-ce que Branham est mort à la croix pour tes péchés? Vous allez dire, ah oui, mais il y a aussi Bouddha. Mais, d'accord, mais est-ce que Bouddha a pris tes péchés? Est-ce qu'il te connaît même? Oui, mais il y a aussi un tel. Mais le problème, c'est quoi? Tous ces tels-là, comment nous pouvons être sûrs que c'est des sauveurs? Parce qu'ils ont beaucoup parlé seulement. Dans ce cas, il faut prendre aussi Michael Jackson comme sauveur. Dans ce cas, il faut prendre le type-là, Philippot, comme sauveur aussi. Donc, est-ce que si quelqu'un parle beaucoup, c'est ça qui fait de lui un sauveur? Quand tu vas à l'hôpital, quelqu'un vient faire des discours au tableau, c'est ça qui te sauve? Non. C'est le médecin qui va t'opérer, qui va enlever la maladie, qui va veiller sur toi pendant 4 jours. C'est lui qui t'a guéri. Ce n'est pas celui qui est venu. Vous savez, quand on est hospitalisé, il y a un professeur qui vient avec 3-4, on devient un peu cobaye, il y a 3-4 personnes, 3 étudiants qui viennent avec lui, ils font des explications sur toi. Mais ce n'est pas eux qui te guérissent, hein. C'est celui qui va te prendre en charge, qui va faire l'opération, c'est celui-là qui te guérit. Vous suivez les gens qui parlent trop. Lionel Messi, il ne te connaît même pas. Donc quand tu es en train de sauter de joie pour lui, lui ne sait même pas. Et tu abandonnes celui qui t'observe avec un regard d'amour, qui veut tellement te sauver, qui sait, il est parti à la croix pour toi. Il y a des gens qui disent, moi c'est mon oncle, oui, moi c'est mon père, moi c'est ma mère. Mais ta mère n'est pas partie à la croix pour toi. Elle-même, elle avait besoin aussi de la croix. Moi c'est Marie, mais Marie n'est pas partie à la croix pour toi. Marie n'a pas pris tes péchés sur elle. Parce que dans tout ceci, bien-aimé, comment nous savons que c'est Jésus? C'est lui le véritable sauveur. Parce que si nous disons seulement il est mort à la croix pour nos péchés, ça peut être aussi un discours, vrai ou faux, ça peut être un discours. C'est ce qui s'est passé un jour qu'un monsieur était paralytique. Il a été déposé aux pieds de Jésus. Jésus lui dit, mon ami, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Les gens qui étaient tout autour, ils ont dit, mais il se prend pour qui? Pour pardonner les péchés de cet homme. C'est seul Dieu qui peut pardonner les péchés. Jésus dit, bon, qu'est-ce qui est plus difficile? De dire, les péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche? Parce que cet homme, ça faisait des années qu'il était paralytique. Aujourd'hui, nous, on appellera ça tétraplégique. Donc, ni les bras, ni les jambes ne bougent. Ça faisait des années. Il dit, qu'est-ce qui est difficile? De dire, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Parce qu'après tout, dire tes péchés sont pardonnés, c'est un discours. Dire après tout que Jésus est mort pour notre péché, c'est un discours. Et les autres religions ont aussi leur discours. Les scientifiques ont aussi leur discours. Mais comment nous savons que le discours de Jésus, c'est celui-là qui est valable, c'est qu'il est ressuscité. C'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. Nous avions commencé comment? Par le point A. On a dit que nous avons tous le péché et la conséquence du péché, c'est la mort. Et pour tous ceux qui veulent faire ouvrir la bouche pour dire « moi je suis bon », la mort leur rappelle ça. La mort triomphe de tout homme. C'est la preuve que tout homme a péché et que la mort triomphe de tout homme, de lui. Maintenant, Jésus, en triomphant de la mort, il démontre qu'il a réglé la question de la mort et de sa source qui est le péché. C'est comme ça que nous savons que ce que dit Jésus est vrai plus que ce que ne disent les autres. Puisque notre problème à nous tous essentiel, c'est la mort. Même si parfois nous ne voulons pas accepter que notre problème c'est le péché, mais nous reconnaissons au moins que notre problème c'est la mort puisque nous vieillissons, nous mourons. Maintenant, il y a une seule personne dans l'humanité qui a vaincu ce problème, qui a réglé ce problème, c'est Jésus. Il est ressuscité le troisième jour, ils sont venus, le tombeau était vide, il est ressuscité. Nous avons lu qu'il a paru à 500 personnes à la fois. Ce n'est pas une illumination d'une personne, non. Il y a un jour, 500 personnes étaient réunies quelque part, il est apparu à ces 500-là à la fois. Il est apparu aux 12 apôtres à la fois. Donc, c'est une réalité que Jésus est ressuscité. Mais pourquoi faire des débats sur le calvinisme, sur Martin Luther, sur Branham, sur tel pasteur, tel autre? Mais tous ces gens-là vont mourir et ils ne vont pas ressusciter par eux-mêmes. Ils dépendent, s'ils se convertissent à Jésus, c'est Jésus qui peut les seuls ressusciter. Pourquoi Bouddha, Mohamed, mais tous ces gens-là sont dans le tombeau. Ils n'ont pas vaincu la mort. Jésus est incomparable. Il est le seul à avoir vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est comme ça que nous savons que ce que lui dit est vrai. Il est vrai puisqu'il a triomphé de la mort qui est la conséquence des péchés. Et les deux constituent notre problème. Le péché et la mort. Jésus a triomphé des deux. Il a vécu sans péché. Il a triomphé de la mort. Mais s'il est mort, c'est parce qu'il est mort à notre place. Voilà encore un cadeau. C'est le meilleur cadeau que Dieu nous ait fait. C'est ça le troisième point. Dieu nous a fait le plus grand cadeau. C'est que son Fils est mort à notre place. Il a pris notre condamnation de sorte que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. C'est ça l'ABC du salut. Et cette vie éternelle, cette résurrection se manifeste. C'est manifesté déjà quand il était physiquement, mais ça se manifeste aujourd'hui encore, car il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront le serpent. Rien de mal va leur arriver. Et il dit, je vais les ressusciter aussi. Voilà, Jésus a démontré sa capacité. Nous allons lire un dernier exemple pour confirmer le dernier point, c'est que c'est Jésus la solution. C'est ça, le C. Jésus est la solution du péché et de la mort. Il a démontré quand il était déjà physiquement sur terre et il le démontre à travers ses disciples aujourd'hui. Lisons cela au verset Luc 8, à partir du verset 40. Deux histoires qui montrent que c'est Jésus-Christ qui est la solution. Luc 8, à partir du verset 40. Jusqu'à la fin.
Luc 8. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé.
Alors, nous voyons comment Jésus triomphe de deux choses, de la maladie qui est la conséquence du mal, du péché, et de la mort qui est la terminaison, le terminus du péché. Il triomphe de ça. Clairement, il montre par là qu'il est la solution. C'est le point C. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Prends conscience de la réalité de ce monde. Prends conscience de ça. Que tu sois, si tu n'es pas encore, tu n'as pas fait encore de contrat avec Jésus, fais le contrat aujourd'hui. C'est gratuit. Ou tu lui dis, Jésus, j'ai compris les choses. Maintenant, je veux t'appartenir. Je veux être au bénéfice de l'œuvre de la croix. Sauve-moi. Et si tu es déjà chrétien et que tu avais négligé l'ABC du salut pour les problèmes périphériques de doctrine, est-ce qu'il faut mettre les chaussures rouges ou jaunes, tout ça? Aujourd'hui, comprends que le plus important, c'est que quelqu'un fasse la rencontre avec Jésus et signe le contrat avec lui. C'est Jésus seul qui sauve. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un système, c'est Jésus seul. C'est ça, mettre les choses, les valeurs des choses. Si tu courais après le système de ce monde, donc c'est-à-dire l'argent, la reconnaissance, une famille, des enfants, tout ça, si tu courais après tout ça, aujourd'hui, comprends que le plus important, c'est la réconciliation avec Dieu d'abord. C'est Dieu qui s'occupera de tout. Non seulement il te sauve, il fait de toi son enfant. Et si tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas manquer? De rien du tout. Voilà, c'est le jour du salut. Nous sommes heureux qu'il y ait ce baptême, qui est encore une prédication de l'ABC du salut. Et nous allons permettre à chacun de prier pour parler à Jésus concernant son avenir. Que chacun décide de son avenir. Et si ça doit te conduire à un contrat clair avec le Seigneur, ben tu signeras ce contrat aujourd'hui et tu nous verras après. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous venons aujourd'hui, Seigneur, te dire que nous avons saisi l'ABC du salut. Nous ne voulons pas être distraits par autre chose. Nous voulons signer notre contrat avec toi de repentance, de changement de vie. Prends notre vie en charge. Seigneur, nous ne voulons plus te servir parce que nous nous sommes engagés un jour. Nous voulons vraiment comprendre ce qui s'est passé à la croix, ce qui a fait de nous des enfants de Dieu et fonctionner maintenant dans la reconnaissance à cela, dans le même objectif qu'aujourd'hui. Nous ne voulons pas être distraits par des débats infructueux sur la manière de donner les offrandes, sur la manière de ceci ou cela, mais nous voulons nous concentrer sur l'œuvre du salut apportée par Jésus. Et nous savons que si nous sommes obéissants, tu nous éclaireras sur le reste, Seigneur. Merci, Seigneur, d'agir dans les cœurs et de transformer beaucoup de personnes aujourd'hui. Oui, Seigneur, ce ne sont pas les ancêtres, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ni mon oncle qui ont été attachés à la croix pour moi, pour que je sois sauvé, c'est toi, Jésus. C'est pourquoi je veux abandonner ma vie entre tes mains, en tes mains seules, Seigneur. Prends tout, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Je veux être reconnaissant pour l'œuvre merveilleuse accomplie à la croix. Non seulement reconnaissant, mais logique. Si pour être sauvé, j'ai dû te confier ma vie, alors pour la suite également. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous recevoir dans tes bras d'amour et de nous conduire à jamais. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.